Twitter, Jean-Luc Mélenchon parle d'une charge du macronisme contre les retraites mise en échec. Le leader de la France insoumise continue de demander le retrait pur et simple du texte. Un texte qui arrivera devant les députés lundi prochain, dans sa version originale, puisque la commission spéciale n'a pas pu le balayer en entier, pour un vote prévu le 3 mars. Des débats qui, eux aussi, font l'objet d'ores et déjà de critiques. En nous octroyant une minute seulement pour défendre nos amendements, disait ce matin le député Éric Woerth, le gouvernement veut nous empêcher...
Radio G 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
I'm so.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne des actualités culturelles et locales. Croyez-le ou non, mais nous sommes le mercredi 12 février et en ce jour banal et spécial, comme tous les jours de l'année, nous allons parler d'une rencontre entre le roi Henri de Navarre et la future reine Margot. Celle-ci est mise en scène avec humour et absurdité par la compagnie PJPP dans un spectacle qui mêle danse et théâtre et que vous pourrez découvrir au Cargo à Segré en Anjou Bleu ce vendredi 14 février. Nous serons avec Nicolas Chéniaud, chorégraphe et interprète, pour en parler, et ce sera dès le début de l'émission. Le mercredi, c'est aussi le jour où on peut retrouver Anouk et sa chronique En Liberté. Au programme ce soir, actualité cinéma, dessin et illustration, je vous donne rendez-vous en deuxième partie d'émission pour entendre Anouk. Derrière le micro, comme chaque jour, c'est Annelie, et je suis accompagnée de Marine. Bonsoir Marine.
Bonsoir.
Tu feras l'entretien avec Nicolas.
Exactement.
Et Anouk, tu es là pour la chronique que je viens de présenter. Salut Anouk.
Oui, salut.
Merci à toutes les deux d'être là pour faire cette émission. Ce soir, à la demande d'un auditeur pointu et expert de la radio, on débute en musique. On va écouter Rouge Gorge et il sera en concert ce vendredi 14 février au Garage à Angers. C'est un bar boulevard Foch qui a aussi une programmation musicale tout à fait bien qui est réalisée par Hervé Productions. Avec Rouge Gorge, il y aura aussi Gwendoline et Yolande Bashing. L'entrée est à prix libre et c'est à partir de 20h. Et tout de suite, on écoute Quel idiot et j'espère que vous allez danser derrière votre poste.
D'indices plus j'y
pensez plus, je me dis qu'il faut agir, battre le fer tant qu'il est temps, ne pas attendre de souffrir. Mes attentions ne brusquons pas, prenons cet air compréhensif. Je m'assois d'abord un moment et te lâche en tremblant. Tu peux tout me dire, tu sais ce n'est pas si important. Tu peux me quitter maintenant si le besoin tu ressens. Alors tu me regardes en souriant, tu me relèves par la main et tu te moques gentiment. Tu me dis que ce n'est rien, qu'il ne faut pas que je m'en fasse. Et sur ces mots tu m'embrasses. Alors je pense à ces rivaux et je me dis quel idiot. Quel idiot. Quel idiot.
Et maintenant, dans l'oreille curieuse, on parle danse et théâtre. Nous sommes en ligne avec Nicolas Chéniaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous en ligne. On vous reçoit pour le spectacle Les déclinaisons de la Navarre. Et je laisse le micro à Marine qui a préparé cet entretien.
Donc ce soir, nous allons parler de spectacle vivant. Il n'a d'ailleurs jamais si bien porté son nom. C'est bien un spectacle terriblement vivant que nous vous invitons à découvrir ce vendredi 14 février au Cargo à Segré. Les déclinaisons de la Navarre de la compagnie PJPP, un étonnant titre pour une création qui ne l'est pas moins. Décalée, vibrante, absurde, burlesque, sensible et irrésistiblement drôle. C'est l'histoire, quelque peu revisitée, vous le verrez, de la rencontre entre Henri de Navarre et sa future reine Margot. Le principe est très simple, prendre une scène d'un téléfilm oublié, dans laquelle Henri de Navarre et sa future reine se rencontrent, en extraire le dialogue et le décliner à l'envi. Détournement, caricature, playback, les deux interprètes facétieux s'en donnent à cœur joie et le public aussi. Nicolas Chéniaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des deux interprètes de la pièce, imaginée, écrite et interprétée avec Claire Laureau. Vous l'avez créée en janvier 2016 au Havre, mais à l'origine, vous souhaitiez travailler, je cite, « à partir d'une grande scène de cinéma pour laquelle nous n'aurions pas été embauchés. Une scène de la reine Margot de Patrice Chéreau, et n'ayant pas trouvé d'extrait du film, vous avez renoncé. C'est finalement une chance que vous n'ayez pas trouvé, non ?»
Oui, tout à fait. C'était une grande chance que la reine Margot soit très protégée, parce que donc sur YouTube, à part la bande-annonce, on peut pas trouver d'extrait de ce film. Et donc c'est par accident heureux qu'on est tombé sur un autre film qui est à la base un téléfilm sur la vie d'Henri de Navarre. Et on a cliqué au milieu, au pif, et on est tombé sur cette scène qu'on utilise dans le spectacle. La scène de rencontre entre Henri et donc la future reine, et donc un téléfilm qui est quand même très éloigné de ce qu'on cherchait au départ, c'est-à-dire un film de cinéma avec des immenses acteurs et des immenses dialogues, comme vous l'avez dit, pour lesquels on n'aurait pas été embauché au départ.
Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les dialogues ne sont pas, ils sont un petit peu à l'eau de rose, quoi, on peut le dire.
Oui, voilà, on va dire que c'est le genre de dialogue, moi, qui me donne l'impression d'avoir été écrit assez rapidement. Donc je ne vais pas en dire plus, mais oui, c'est un petit peu une caricature de scène de drague de l'époque. Donc je ne sais pas exactement ce que les gens se disaient à cette période-là, mais j'ai du mal à imaginer qu'ils se disaient ce qu'ils se disent dans le dialogue du téléfilm. Et donc, ça nous a fortement amusés. Et donc, c'est parti de là.
Et donc, vous avez choisi cette scène et vous avez décidé de la décliner en plus de 25 fois, il me semble. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces déclinaisons? Comment vous avez fait? Quel est le point de départ, en fait? Est-ce qu'à la base, vous vouliez créer un spectacle en déclinant une scène? Est-ce que vous vouliez faire un spectacle d'humour? Comment ça vous est venu, cette idée de décliner?
Alors, en fait, l'idée de décliner, elle est venue toute seule. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement eu l'idée. C'est juste que, donc, avec ma partenaire Claire Leroux, on s'est rencontrés... en tant qu'interprète dans une compagnie de danse et en fait on avait simplement envie de travailler tous les deux, de prendre des temps de studio, de recherche, donc on travaillait sur des petites formes qui étaient plutôt décalées, même pas l'idée de créer une compagnie ni un spectacle et donc voilà on était plutôt sur des modes vidéo, de petites scénettes, de petites situations. Et donc en tombant sur le téléfilm, on a donc appris la scène, on l'a rejouée complètement à plat pour voir, et puis en fait de façon très naturelle on s'est dit bah, tiens, on pourrait jouer la scène d'un couple qui regarderait le téléfilm en question, mm-hmm. en essayant d'exagérer un petit peu, d'accentuer des réactions que des téléspectateurs pourraient avoir sur ce film. Et puis ensuite on s'est dit bah tiens, on va jouer la scène mais on va enlever des mots du dialogue, ou on va prendre un mot du dialogue et en faire une scène. Et puis en fait c'est comme ça, c'est venu de façon très spontanée. Et puis à un moment donné on s'est retrouvé avec une petite dizaine de déclinaisons, on les a mis bout à bout, on les a présentées à des proches, mm-hmm. et puis en se demandant vraiment si c'était communicatif pour les autres ou si ça n'allait faire rire que nous. Et en fait on s'est rendu compte que c'était plutôt communicatif. Et donc c'est à partir de cette présentation qu'on a faite à peu près 2 ans avant la première du spectacle qu'on s'est dit qu'on allait faire un spectacle où on ne ferait que ça. C'est-à-dire tout ce qu'on allait créer serait en lien avec cette scène
de départ du téléfilm. Mais du coup, vous êtes interprète, mais tous les deux metteurs en scène du coup de la pièce, qui est, je le précise, mais aussi légère qu'exigeante. Chorégraphiquement, c'est vraiment très très exigeant. Vous venez tous les deux de la danse. Tout a son importance, le moindre geste, la moindre grimace. Il y a également un gros travail sur le rythme. Comment vous avez travaillé? Est-ce que vous avez eu un regard extérieur?
Alors en fait, on a eu quelques regards extérieurs tout au long de la création, mais on pensait solliciter quelqu'un pour avoir un regard un peu dramaturgique et tout ça. Et puis en fait, on s'est vite rendu compte qu'on avait un rythme à nous qui était difficilement partageable. C'est-à-dire qu'on est très très maniaque et obsessionnel tous les deux. Et du coup, effectivement, on a pris énormément de temps pour créer le spectacle. On a pris à peu près 25 semaines, ce qui est à peu près 3 fois plus que, je pense, la moyenne de création d'un spectacle. Mm-hmm. Donc on est vraiment parti de, on s'est beaucoup filmé et puis comme vous dites on a beaucoup travaillé sur la bande son, mm-hmm. ce qui était l'enjeu, parce que finalement au bout d'un moment créer des déclinaisons d'une scène avec un peu d'imagination on peut en fait créer à l'infini en fait, et on avait fini par penser à plein de façons de décliner la scène. Il y a d'ailleurs des spectateurs du spectacle qui nous suggèrent ensuite après l'avoir vu, bah tiens, vous auriez pu le faire comme ça, vous auriez pu le faire comme ci, donc c'est assez chouette. Mais pour nous, bah ce qui a été la deuxième partie vraiment de création de la pièce, c'était de créer une sorte de rythmique, de même de dramaturgie pour créer un spectacle que ça puisse un petit peu dépasser l'exercice de style. Et avec la question qu'on se posait, c'est de voir jusqu'où on allait pouvoir aller en s'éloignant de la scène, en partant du principe que le spectateur, au bout d'un moment, comprend que tout ce qu'on va faire sera en lien avec la scène, oui. et que finalement, c'est le spectateur qui lui-même crée les liens qu'on fait avec la scène, quoi.
Mmh. Voilà. Chaque déclinaison en entraîne une autre, en fait. Mais du coup, est-ce que la pièce a évolué depuis sa création? Est-ce que vous avez fait des choix dans les déclinaisons? Est-ce qu'elle a évolué depuis 2016? Parce que du coup, vous l'avez beaucoup joué.
On l'a beaucoup joué. On l'a joué à peu près. Là, on doit être à 160 représentations. Donc, on a eu le temps de la roder. Il y a eu un an de tournée où on a toujours réajusté les timings. Il y a des scènes qu'on a recréées, voire des nouvelles scènes qu'on a intégrées. Parce que c'est vraiment en jouant qu'on se rend compte ben voilà, des timings et tout ça. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur le timing, beaucoup travaillé sur la bande-son. Mmh. Donc oui, il y a eu à peu près un an, on a retravaillé beaucoup la lumière aussi du spectacle. Donc on a eu la chance de pouvoir tourner la pièce assez tôt et de façon assez intensive. Et donc ça nous a permis effectivement de réajuster. Après, depuis 3 ans, elle ne change pas.
Elle ne bouge plus. Fixe. Et du coup, voilà. C'est une pièce sans beaucoup de décors, donc sans dévoiler la mise en scène, il y a un objet principal sur le plateau. Parce que du coup, finalement, j'imagine que toute l'attention est portée sur le corps et le geste, en fait, et leur moindre incidence. Ouais. Est-ce que c'est votre volonté ?
C'était tout à fait une volonté que d'avoir le moins possible d'éléments sur scène, que le spectateur puisse aussi lui-même s'inventer le décor dans lequel on était dans chaque scène. Après, c'est aussi à nous, en tant que danseurs, interprètes sur scène, d'essayer de faire apparaître les différents... Alors, la lumière nous aide par moment, mais sinon, on voulait vraiment que ce soit le plus neutre possible. Et que le spectateur puisse lui-même s'inventer les décors... On aurait pu se dire au départ, on fait un roi et une reine, on va prendre des costumes un peu royaux et tout ça. En fait, pas du tout. On s'est dit, non, au contraire, il faut qu'on soit le plus neutre possible, le plus à nu possible pour, que le spectateur ait ce travail-là, entre guillemets, à faire d'imagination.
Et du coup, on l'a dit tout à l'heure, vous venez tous les deux de la danse, vous vous êtes rencontrés puisque vous étiez interprète pour la même compagnie. Donc le travail sur le corps est très minutieux. Et quelle est la place du théâtre, du coup, du jeu dans la pièce ?
Bah en fait, c'est la place centrale du spectacle, c'est le jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui nous a motivé, c'est ce qui nous motive tous les deux à travailler ensemble, c'est qu'on est un peu le meilleur spectateur de l'autre. Et donc c'est vraiment on a un humour qui est très très commun et une vision du spectacle aussi assez commune, et du coup notre envie de base, c'est le jeu. Après le spectacle, moi j'aurais plutôt tendance à le définir comme un spectacle de théâtre créé par des danseurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup on a utilisé nos expériences de danseurs, et le corps est toujours au service, le corps est toujours travaillé, mais il est toujours au service du jeu et d'une certaine forme de théâtralité.
Parce qu'il faut le redire, hein, j'espère qu'on l'a compris, mais pendant la pièce que j'ai vue il y a très longtemps, mais je me souviens de la réaction du public, on rit beaucoup, et c'est très important de le dire, parce qu'il y en a beaucoup justement qui ont un petit peu peur de franchir les portes du théâtre, surtout quand il s'agit de danse contemporaine. Mais voilà, on le redit, c'est un spectacle dans lequel on rit beaucoup. Et d'ailleurs, dans votre dossier de création, vous mettez une citation de Nietzsche qui est très intéressante, qui dit « La maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. » Et vous le dites vous-même, plus c'est léger, plus c'est bête, plus au fond, c'est très sérieux.
Bah oui, enfin, je pense que c'était aussi un... Enfin, moi, j'adore cette idée-là. Enfin, cette citation de Nietzsche me parle beaucoup, parce que, effectivement, dans un parcours professionnel de danseur, quand on a 20 ans, 25 ans, on est dans une envie qui est tellement forte que c'est un petit peu difficile d'être dans la dérision, d'être dans le... Enfin, on n'a pas beaucoup de distance, je pense, avec ce qu'on fait. Et je pense que la rencontre avec Claire, ça s'est fait à un moment où on avait vraiment envie de retrouver ce plaisir-là du jeu. Et qu'effectivement, l'image moi, qui me vient, c'est des enfants qui jouent. Un enfant qui joue, à la guerre, par exemple, quand il meurt vraiment. Enfin, il est extrêmement sérieux dans sa façon de jouer. Et donc c'est ce sérieux-là, ce premier degré-là du rapport au jeu qu'on avait vraiment envie de retrouver, quoi.
Ok, mais un petit détail qui a son importance quand même, parce que on parle de Claire Laureau depuis tout à l'heure, c'est vraiment votre rencontre qui vous a amené à créer ce spectacle-là, vous l'avez créé avec elle, mais depuis le mois de janvier, pour quelque temps sans doute, elle a laissé sa place à Léa Lansade. Alors comment vous avez trouvé une partenaire qui puisse partager tant de complicité dans le jeu ?
Alors c'est très différent, forcément, parce que donc effectivement Claire est enceinte, donc
c'est plus
on a transmis le rôle à Léa Lansade, qu'on avait déjà rencontré plusieurs fois dans le cadre de rencontres qu'on organisait pour éventuellement travailler avec d'autres danseurs. Et donc ça a été pour elle parce qu'effectivement on a passé beaucoup de temps à créer le spectacle, donc c'est ça a été beaucoup d'informations pour elle et tout ça. Après, en fait, la structure de la pièce fait que de toute façon, il y a quelque chose qui marche du fait de la rythmique et de la construction du spectacle vraiment. Et puis après, bah, la complicité qu'on a avec Léa, elle se construit au fur et à mesure des tournées. Là, on a déjà fait 6 représentations ensemble, et ben c'est clairement un spectacle, enfin une complicité qui est différente, un rapport aussi de taille tout bêtement, qui est, parce que moi je suis plutôt grand, enfin Claire est surtout très petite, et moi on va dire grand, Léa est pas aussi petite que Claire, donc ça crée aussi une relation un petit peu différente, mais c'est une autre relation. Moi j'ai aussi ajusté un petit peu ma présence et mon...
Oui, forcément que ça influence et que ça donne une autre teinte.
Pardon ?
Je dis forcément que le fait qu'elle soit remplacée, ça donne une autre influence au jeu et une autre teinte. Pas forcément.
Oui, voilà, c'est ça. C'est des petits ajustements de... Il faut qu'on trouve notre couple à nous, quoi. Voilà. Mais ça se trouve... ça s'est déjà très bien trouvé. Les premières représentations se sont très bien passées. Et puis ça ne va faire que s'enrichir et se nourrir...
Ok, et alors juste une petite question qui nous a tous rendu très curieux. Pourquoi PJPP ?
Alors, PJPP n'a absolument aucun intérêt. Donc, à part le côté visuel de PJPP, qui est en fait à peu près, ça pourrait être 4 lettres P, dont une à l'envers, puisque le J, ce serait un petit peu un P retourné. Donc, visuellement, ça fait quelque chose de très rangé, mais avec un petit élément qui vient foutre un petit peu le bazar dedans, ce qui nous va bien, quand même, dans l'idée. Et puis, le son que ça produit, qui est assez dynamique. Mais c'est parti, en fait, de surnoms qu'on se donnait, mais je ne vais pas vous livrer ça, parce que ça n'a aucun intérêt.
Voilà. Très bien, on se contentera de ça. Et alors, juste pour finir, vous faites aussi des ateliers à côté des spectacles.
Oui.
Voilà, c'est le cas demain au Cargo. Vous allez accompagner une vingtaine de stagiaires autour du spectacle. Qu'est-ce que vous allez leur proposer de faire ?
Ah, ça va être la surprise, mais en fait, ça va être de voir comment on peut associer le corps et le texte. Donc on va travailler autour de la scène. Après, ça se fait toujours de façon extrêmement ludique et simple. Donc ça va être vraiment d'essayer de donner un petit peu le ton du spectacle. On a donné beaucoup d'ateliers, donc on a eu le temps aussi d'ajuster un petit peu le format d'atelier pour que ce soit fluide. Mais c'est toujours, particulièrement avec les groupes qui sont volontaires, puisque avec les écoles ça marche aussi, mais c'est très différent. Là, le texte est plus difficile à aborder. Mais c'est toujours très joyeux de voir des gens se fondre dans devenir les déesses et les rois. Donc voilà, c'est un mélange de corps et de voix, un petit peu l'image du spectacle, quoi.
Ok, très bien.
Mais il n'y a absolument aucune nécessité d'avoir
ni danseur ni comédien. Enfin,
quelqu'un qui n'aurait jamais fait de théâtre et jamais danse est tout à fait parfaitement bienvenu, parce qu'il n'y a aucune difficulté technique à ce qu'on demande. C'est vraiment très 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 bienveillant et très
dans
très
la bonne humeur
accessible
et dans l'humour. Merci beaucoup Nicolas Chéniaud. On se retrouve donc au Cargo à Segré le vendredi 14 février. Donc à tous ceux qui ne savent pas encore quoi faire vendredi, aux amoureux de la danse, du théâtre ou aux amoureux tout court, ou aux simples curieux évidemment, venez donc au théâtre découvrir les déclinaisons de la Navarre de la compagnie PJPP. C'est à 20h30 au Cargo à Segré. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Nicolas.
Merci.
On va poursuivre cette oreille curieuse avec un titre de Gris Cornac, c'est Sirocco.
La langueur glissée sans saccade, les hirondelles torsadent leur rodéo. La langueur mollesse sans parade, les cyprès dansent le sirocco. Soleil vive les soifs bleues Curaçao.
La longueur de l'eau dans les algues. Les cyprès dansent, le sirocco.
La mort roule comme un sanglot. Altostratus en promenade, sa cri paresse de bigorneau.
La longueur de l'eau dans les orgues. Les cyprès dans la longueur de l'eau dans les algues. Les cyprès dansent, le sirocco.
Dans ton cœur coule une citronnade, tu t'endors sous le ventilo. Juillet en robe de cotonnade, les cyprès dansent, le sirocco.
La longueur de l'eau dans les algues. Les cyprès dansent, le sirocco.
C'était Gris Cornac sur Radio G dans l'oreille curieuse. Gris Cornac qui sera demain soir au Shabada à partir de 20h30. Il y aura Chéri Plume duo en première partie et c'est la release party, c'est-à-dire le concert pour fêter leur nouvel album qui s'appelle Tout baigne et qui est tout à fait recommandable, c'est-à-dire vraiment bien. Et maintenant, on va retrouver Anouk et sa chronique en liberté, la chronique qui va, qui vient. Cette semaine, tu nous parles... De quoi tu nous parles, Anouk ?
Je vais vous parler de dessin, d'illustration et puis un petit peu de cinéma aussi. On va faire un petit point sur, sur quelques films
sur
que
les
j'ai
sorties.
Ouais, c'est ça.
Allez.
Donc bon, déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc pour commencer ma chronique, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi il y a une petite semaine de ça, je me suis retrouvée à une soirée jeu avec des copains. Et vous savez, c'est ces fameuses soirées jeux au cours desquelles on se fait des sales coups en jouant au toc ou encore celles où on va dessiner avec tout notre cœur selon une consigne imposée pour que finalement nos copains explosent de rire à la vue de nos chefs-d'œuvre. Donc vous avez deviné, je vous parle ici des jeux comme « Dessiner, c'est gagner ». Il m'est arrivé tellement d'histoires drôles avec ce jeu et parallèlement, je suis tellement admirative des personnes qui peuvent exprimer leurs idées par le dessin que j'ai décidé de vous faire un morceau de chronique sur cette thématique. Donc j'ai depuis longtemps envie de relativiser et de nuancer ma fameuse phrase type « Non mais de toute façon je suis nulle en dessin ». Et si finalement j'avais besoin de réapprendre et si finalement je n'étais pas si nulle que ça ? C'est vrai quoi, quand j'étais gamine, genre vraiment toute petite et que je dessinais un géant bonhomme tout petit, tout mignon, et ben j'étais tellement convaincue de mon truc que je ne laissais personne me dire que cette espèce de boule grossière n'était pas un bonhomme. Et vous savez quoi ? Et ben les adultes allaient au début dans mon sens, jusqu'à ce que... tout doucement, mais sûrement, il change d'avis, et puis bah, de réflexion négative en réflexion négative, je finisse par me dire que j'étais vraiment nulle, que je me résigne et que je m'auto-censure.
Et que t'arrêtes le dessin.
C'est triste. Donc je crois en fait que cette micro-histoire, en fait, elle est commune à beaucoup d'entre nous, et en fait, en ce qui me concerne, bah, j'ai eu envie de réessayer, de réapprendre et de m'y remettre, step by step. Donc j'ai décidé de vous parler d'un ouvrage que j'aime beaucoup et qui s'appelle l'Encyclopédie visuelle, 1400 dessins, croquis, pictos et crobars. Paris, paru pardon, aux éditions Erol. C'est un ouvrage qui se décline en trois grandes parties. Donc la première, qui est en fait une proposition de parcours accéléré pour réapprendre à dessiner. La deuxième partie, elle, c'est plus vraiment une mise en application, voilà, de ces petits dessins. Donc on a une encyclopédie visuelle avec plein de petites illustrations qui vont, souvent il y en a trois différentes, une toute simple et puis après un petit peu plus compliquée et après encore un peu plus compliquée. Donc ça c'est la deuxième partie du livre, et la troisième partie en fait c'est de l'approfondissement, donc sur des techniques particulières, si par exemple on a envie de travailler les volumes, les textures, enfin voilà. Donc cet ouvrage, au fur et à mesure en fait de la lecture de cet ouvrage, on va redécouvrir les codes de l'illustration, donc comment est-ce qu'on peut comprendre la construction d'une image et comment notre œil l'analyse aussi. Donc à un moment donné, il est aussi question des degrés de réalisme selon Scott McCloud, qui est un grand connaisseur de BD. Et donc il vient expliquer quelles sont les trois options dont dispose le dessinateur pour retranscrire une idée via le dessin, entre vision réaliste, abstraite et épurée. Cette encyclopédie nous propose surtout, et c'est ce que j'adore, de mettre la main à la pâte au fur et à mesure de notre progression de lecture. Donc j'aime y passer un peu de temps. Car non seulement j'apprends à redécouvrir le processus créatif, mais aussi parce que j'ai le sentiment de retrouver et redécouvrir une manière de dessiner en fait qui est la mienne, mais que j'avais complètement zappée. Donc cette encyclopédie, elle a été construite par Bernard Lebel, qui est un consultant et conférencier fondateur d'un cabinet de conseil, en collaboration avec Guillaume Lagane, qui est fondateur de la société de facilitation graphique et auteur de « Dites-le en images ». Et enfin, avec Nicolas Gros, qui est un des pionniers de la facilitation graphique en France et responsable de ce même tissu de compétences chez Wild in the Game. Donc si vous avez envie de redécouvrir vos talents, ou tout simplement de développer votre intelligence, votre capacité à utiliser le dessin pour transmettre vos idées, foncez! Comme je viens de vous le dire, désolée, je parle un petit peu vite.
Tout va bien.
Comme j'aime aussi les illustrations et qu'on a la chance, en fait, à Angers d'avoir plusieurs artistes talentueux dans ce domaine, j'en profite pour vous glisser un petit mot sur Matou, qui est en fait une illustratrice qui élargit chaque jour un peu ses propositions de support illustré et qui est l'auteur du blog Crayon d'humeur. Elle a aussi fait pas mal de BD. Enfin voilà, elle propose pas mal de choses assez différentes, donc je vous invite à aller voir son blog. Et je pense aussi encore à une autre BD qui s'appelle Ma vie d'artiste, qui est du coup réalisée par Marie Desplechin. C'est une BD que j'aime beaucoup parce qu'elle vient en fait expliquer quelles sont les réalités de vie des artistes illustrateurs. Et donc dans cette BD, en fait, elle raconte toutes les étapes par lesquelles elle peut passer, de la formation qui a été la sienne pour devenir en fait illustratrice à ses réalités de vie actuelles. Désolée pour le bug. Donc voilà, je vous propose maintenant une petite chanson avant de...
Une petite chanson ?
Ouais, avant de repartir sur le versant un peu plus en lien avec le cinéma,
ouais,
du coup.
Après cette actu visuelle, eh bien, on va écouter Joanne Papa Constantinou.
C'est parfait.
fais un truc pas très bien, mais je laisse pas la chanson de Johann Papa Constantino. Le titre, il est imprononçable, c'est Tite-Télé-Félix. Voilà, bref. tu as préparé une actu ciné à Anouk pour poursuivre l'émission et ta chronique.
Oui, alors du coup, j'ai vraiment fait simple. J'ai sélectionné seulement deux films, mais sachez qu'il y a, voilà, il y a toute une série de films très intéressants qui sortent en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment une sélection plutôt subjective.
Mais c'est deux films à voir cette semaine.
Ouais, c'est ça. Donc, le premier film que j'ai sélectionné, c'est Le cas Richard Jewell. En fait, ce film racontait l'histoire de Richard Jewell qui, en 1996, fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Et en fait, il est aussi l'un des premiers à être alerté de la présence d'une bombe sur les JO, et donc à sauver des vies. Donc il va bientôt se retrouver en fait suspect de, je ne trouve plus mes mots, qui va
de lui avoir mis la bombe,
voilà,
ou de
ça.
Lui avoir
merci Annie, exactement,
fait les choses. Sinon c'est pas drôle.
Oh, c'est ça. Et donc c'est tiré en fait d'une histoire vraie. Et c'est un film qui est réalisé par Clint Eastwood. Il sort en salle aujourd'hui et vous pourrez le trouver au cinéma à Angers, du coup au cinéma Gaumont.
On écoute la bande-annonce ?
Ouais, c'est parti.
Tape going. All right, Richard, here's what we're going to do. We need a voice exemplar. I want you to say into this phone, there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
Richard, you're a national hero now.
Thank you, sir. But I was just doing my job.
Move away from the town!
You always look at the guy who found the bomb just like you always look at the guy who found the body.
Jewel fits the profile of the lone bomber.
A frustrated white man who is a police wannabe who seeks to become a hero.
We're running it.
You're a suspect.
You don't talk.
I talk. Say it.
I don't talk.
This might be the only way to clear your name. I want you to say there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
Stop trying to be their best friend.
I was raised to respect authority.
Authority's looking to eat you alive.
There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
I'm sorry, what?
His accusers are two of the most powerful forces in the world. The United States government and the media.
I do want to help y'all. I'm law enforcement too. There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
Beaucoup de suspense, donc dans le dernier film de Clint Eastwood. Anouk, t'as choisi un autre film pour cette actu ciné.
Oui, alors le deuxième film que j'ai sélectionné, c'est Lettre à Franco. C'est un film espagnol réalisé par Alejandro Amenábar et qui est sorti en 2019 dans son pays. Donc là, nous sommes à Salamanque durant l'été 1936, lorsque éclate la guerre civile espagnole, et ce prestigieux écrivain, philosophe et recteur de l'université Miguel de Unamuno, s'exprime en faveur du coup d'État de Francisco Franco. Mais devant les dérives fascinantes des nationalistes, il questionne peu à peu sa position initiale. Voilà, c'est donc au cinéma également, pareil. Au cinéma Gaumont à Angers. On écoute rapidement la bande-annonce et en ce qui me concerne, je vous dis à plus tard pour une nouvelle chronique.
Merci beaucoup, Anouk.
Attention! Oh! 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y por la luz de Dios, en toda España.
¡Viva la muerte!
¡Viva! Don Miguel de Unamuno, el más destacado lugar entre los sabios de España.
Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí.
Ahora lo que hay que hacer es colaborar.
¿Colaborar con quién?
Franco.
Je suis au regret de devoir couper cette bande-annonce de Lettre à Franco pour essayer de finir cette émission à l'heure en 37 secondes. Merci beaucoup Marine, merci beaucoup Anouk. On se retrouve bientôt dans cette émission, l'oreille curieuse. À 19h, vous allez retrouver Bande Geek Mafia, l'émission Info Culture. Si vous avez raté un élément de cette émission, il sera en ligne à la page de l'émission sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. Demain, on parlera du Salon du Livre et de ses métiers d'art. Et il y aura Benoît et sa chronique Sciences, Nature et Environnement. Voilà tout ce que je voulais vous dire avant de vous souhaiter une très bonne soirée. À demain.
www.radio-g.fr.
Fais-moi la bise, ce soir c'est sûr, elle est conquise.
Papier ciseaux, avec ta zouze, rentre en solo, c'est moi qui tease.
J'arrive dans la pièce, t'es en susu. Ta meuf est trop bonne et j'ai trop bu. Jean, cocktail et costume bleu. Regarde amour, regarde feu. Tu paniques, t'es en nage et t'es perdu. Elle a lâché ta main dès qu'elle m'a vu. Luxe, hôtel et chambre sur mer. Je vis dans ses rêves, loin de ton cœur. Ta meuf est trop douce, je veux son nectar. J'ai senti la coco, c'est que c'est trop tard. Un peu de rhum coca, je la saoule. Au prochain verre, c'est sûr, je te coule. La gourmandise se voit dans ses deux yeux. Elle passe encore une main dans ses cheveux. Tu parles encore de toi, tu la saoules. Tu peux dire adieu à son boule. N'est pas le seum. Fais-moi la bise. Ce soir, c'est sûr, elle est conquise.
Ma bouche à ses lèvres, je rêve de ça toute la nuit. Six ans dans mon dos, j'ai suivi toutes ses envies. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves.
J'arrive dans la pièce, tu l'as perdue. J'étais dans la chambre et t'as rien vu. Puis j'ai
goutte à goutte toute fraîche. Capter le balancement de ses fesses. Ta meuf sera ma queen pour une nuit. Je vais la gâter fort dans le lit. Comme une aventure où t'es pas là. Comme un plan à trois, un peu sans toi.
Ta meuf est trop douce, veux son nectar. J'ai senti la coco, c'est que c'est trop tard. Un peu de rhum coca, je la saoule. Au prochain verre, c'est sûr, je te coule. J'enlève sa culotte avant l'excès. Elle est déjà trempée, elle a plus de pied. On t'a encore perdu dans la foule. Si tu l'entends crier, c'est qu'elle mouille.
Papier, ciseaux, avec ta zouze. Entre en solo, c'est moi qui tease.
Ma bouche à silette, je rêve de ça toute la nuit. Ciseaux dans mon dos, j'ai suivi toutes ses envies. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves.
Elle s'amuse, c'est sûr, tout doux avec moi. Laisse-la un peu toute nue dans mes bras.
Elle me dit qu'elle n'a jamais fait ça. Je lui souris, lui montre la voie. Adieu, l'amour se fera sans toi. Adieu, ta zouz salira les draps. Adieu, l'amour se fera sans toi. Adieu, ta zouz salira les draps.
Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves.
Mankind.
Only the people can believe in
mankind.
Only the people get control. Only the people can believe in
mankind.
Only the people get control. Wind is blowing hard today. Dust everywhere. Riot against brutality. Riot.
Mankind.
Only the people can believe in
mankind.
Only the people get control. Only the people can believe in
mankind.
Only the people get control.
Freedom,
riot against the
Radio G 101.5 FM.